Le journal de George Fox 1666-1673 en Amérique et retour page 2 après quelques autres entretiens, je me retirai avec le juge Manche dans une autre pièce afin de lui parler au sujet des amis, car il était juge de paix pour le Middlesex et étant courtisan, les autres juges s'en remettaient à lui pour la conduite des affaires. Il me dit « Je suis embarrassé de la façon d'agir entre vous et certains autres dicides. Car, dit-il, vous ne pouvez pas prêter serment, et les indépendants, les baptistes et les gens de la cinquième monarchie disent aussi qu'ils ne peuvent pas prêter serment. Dès lors, dit-il, comment saurais-je vous distinguer d'eux, puisque vous dites tout ce que c'est par motif de conscience que vous ne pouvez pas jurer ? Je répondis, je vais vous montrer comment distinguer. Au moins la plupart de ceux dont vous parlez peuvent et jurent dans certains cas, mais nous ne pouvons jurer en aucun cas. Si quelqu'un leur volait leurs vaches et leurs chevaux, et que vous leur demandiez s'ils juraient que c'était les leurs, beaucoup d'entre eux le feraient volontiers, mais si vous mettez nos amis à l'épreuve, ils ne peuvent pas jurer pour leur propre bien. Ainsi, quand vous leur proposerez le serment d'allégeance, demandez-leur, peuvent-ils jurer dans un autre cas, par exemple pour leur vache ou leur cheval, ce à quoi, s'ils sont réellement des nôtres, ils ne le pourront pas, bien qu'ils puissent rendre témoignage à la vérité. Je lui rapportai un procès dans le Berkshire qui se déroula ainsi, un voleur déroba deux bêtes à l'un de nos amis. Le voleur fut pris et jeté en prison, et l'ami comparait contre lui aux assises. Avant d'entendre l'ami, quelqu'un ayant informé le juge que le plaignant était Quaker et ne pouvait prêter serment, le juge demanda « Est-il Quaker et ne jura-t-il pas ?» Alors proposez-lui les serments d'allégeance et de suprématie. Il fit donc jeter l'ami en prison, l'inculpa, et laissa le voleur en liberté. Le juge Marsh dit « Ce juge-là était un méchant homme. Mais dis-je, si nous pouvions jurer dans quelque cas que ce soit, nous prêterions le serment d'allégeance au roi, qui doit préserver les lois qui assurent à chacun la jouissance de ses biens. » En revanche, ceux qui peuvent jurer dans des cas pour préserver une partie de leurs biens si on les vole ne veulent pas prêter serment au roi, qui doit les préserver dans l'intégralité de leurs biens, et aussi dans leur personne. Ainsi vous pouvez aisément distinguer et faire la différence entre nous et ces gens-là. Le juge Marsh fut ensuite très utile aux amis dans ce cas et dans d'autres, car il empêcha plusieurs, tant des amis que d'autres, d'être inculpés, et lorsque des amis étaient amenés devant lui, en temps de persécution, il en remit beaucoup en liberté. Quand il ne pouvait éviter de les envoyer en prison, il en envoyait certains pour quelques heures ou pour une nuit. Enfin, il alla voir le roi et lui dit « J'ai envoyé certains d'entre nous en prison contre ma conscience, et je ne puis plus le faire. » Aussi déménagea-t-il sa famille de Limoux où il vivait, et prit-il un logement près de James Park. Il dit au roi « S'il plaisait à votre majesté d'accorder la liberté de conscience, cela apaiserait et établirait tout, car alors nul n'aurait de prétexte pour être inquiet. » Et en vérité, ce fut un homme très utile à la vérité et aux amis en son temps. Nous eûmes un grand service à Londres cette année-là, la vérité du Seigneur triompha de tout. Beaucoup de ceux qui s'étaient détournés de la vérité revinrent cette année-là, confessant et condamnant leurs égarements. Après être resté quelque temps à Londres, je visitai les amis du Surrey, du Sussex et d'autres lieux de ce côté-là, puis je voyageai vers le nord avec Leonard Fell. Nous visitâmes les amis jusqu'à parvenir à Warwick où beaucoup étaient en prison. Nous eûmes une réunion dans la ville, de là je passai à Birmingham et à Badley. À Badley j'eus une grande réunion, après quoi je traversai la campagne en visitant les amis jusqu'à Nottingham, où le premier jour, nous eûmes une réunion précieuse, non sans danger toutefois d'être appréhendés, car les constables avaient menacé les amis. De là je passai visitant les amis jusqu'à Balby, puis à la réunion trimestrielle de York. Nous eûmes une réunion bénie. Les amis du Yorkshire s'étaient auparavant réunis en cette réunion mensuelle, et ils étaient si sensibles au service qu'elle rendait qu'ils désirèrent en ajouter sept autres, car la vérité était très répandue dans ce comté. En conséquence, lors de cette réunion trimestrielle, elles furent fixées et établies, ainsi, ils ont maintenant 14 réunions mensuelles dans ce comté. C'était le temps des assises à York, j'y rencontrai le juge Rossum, bienveillant envers les amis, qui avaient été doux et très bons pour moi au début de la propagation de la vérité. Après avoir achevé mon service pour le Seigneur à York, je gagnai la campagne. En chemin, un grand fardeau tomba sur moi, mais je n'en compris pas immédiatement la raison. J'assistai, le premier jour, à une réunion chez Richard Shipton très nombreuse. Il y eut ce même jour une réunion en un autre endroit, et le prêtre de ce lieu, étant mal informé que je m'y trouverais, obtint un mandat et causa un grand trouble à cette réunion. Isaac Lindley m'en rendit compte par la lettre suivante. À George Fox, lorsque vous êtes parti de York, le premier jour après que vous étiez chez Richard Shipton, j'avais fixé une réunion ce jour-là à 10 000 de York, où il n'y avait pas eu de réunion auparavant. Mais le prêtre et le constable obtinrent un mandat le septième jour et n'y mirent que votre nom, car ils avaient entendu dire que vous deviez être là. Ils vinrent avec des armes et des bâtons et crièrent « Ouéhem, Fox, encore et encore ». Comme beaucoup d'amis étaient là, ils conclurent que vous étiez parmi eux. Mais ces ravisseurs déçus me tirèrent à bas, me maltraitèrent, frappèrent quelques amis, puis me conduisirent devant un magistrat, mais il me remit en liberté. Isaac Lindley, je visitai ensuite les amis à Whitby et à Scobbe. Lorsque j'étais à Scobbe, le gouverneur, ayant appris que j'étais venu, m'invita chez lui, disant « Assurément, vous ne seriez pas si peu aimable que de ne pas venir voir ma femme et moi. » Après la réunion, j'allai lui rendre visite, et il me reçut très courtoisement et affectueusement. Après avoir visité la plupart des réunions du Yorkshire, du Woods et du Holderness, je vins chez Henry Jackson, où j'eus une grande réunion. De là, chez Thomas Taylor, puis chez John Moo à Eldreth où Sarah Fell et Susanna Fell me rencontrèrent, et où nous eûmes une réunion très nombreuse, la puissance et la présence du Seigneur étaient éminemment parmi nous. Après cela, nous vîmes dans le Staffordshire et le Cheshire. Là vivait ce Geoffrey Shake, qui a été un cruel persécuteur des amis. Il eut une altercation avec un jeune homme de 18-19 ans qui revenait du moulin avec deux chevaux chargés. Le jeune homme ne pouvait pas dégager ses chevaux de son chemin, et Shake lui commença à le frapper avec sa canne. Le jeune homme la lui ôta de la main et la posa à côté de lui. Alors Shake lui sortit ses pistolets, et le jeune homme les lui prit des mains et les posa à côté de lui, car le passage était étroit. Puis Shake lui tira son épée, et le jeune homme la lui prit aussi de la main et la posa. Son serviteur était derrière lui. Ils étaient tous deux ivres. Shake lui appela son serviteur, disant que ce Quaker l'avait désarmé. Le serviteur dit à l'ami de lui rendre ses armes, ce qu'il ne voulait pas faire, de peur qu'il ne tente de lui faire du mal à nouveau. Le serviteur demanda donc à l'ami de lui remettre les armes, ce qu'il dit qu'il ferait si le serviteur promettait de les garder loin de son maître afin qu'il ne puisse lui nuire. Shake lui envoya alors son serviteur chercher un constable et apporter une Bible pour lui présenter les serments d'allégeance et de suprématie. Shake lui resta sur son cheval, pendant qu'il retenait les chevaux du jeune homme, toujours chargé jusqu'au retour du serviteur. Quand le serviteur revint, il dit qu'il n'avait pu trouver de constable et comme les gens d'alentour étaient pauvres, qu'il n'avait pas pu obtenir de Bible non plus. L'ami remit au serviteur les armes de son maître, et ils partirent tous deux chercher un constable. Le serviteur était plus civil que son maître. Il dit à l'ami de rester à la forge jusqu'à ce qu'il soit parti et hors de vue. L'ami y resta un moment, et comme ils ne revinrent pas, il partit traverser la lande avec ses chevaux chargés. Après que Shake Lee eut chevauché en cherchant un constable, il l'aperçut et le suivit jusqu'à la ville. Un prêtre et un constable vinrent à lui, et Shake Lee voulut établir un mandat d'écrou et l'envoyer en prison pour l'avoir désarmé. Mais le constable et le prêtre le persuadèrent de ne pas le faire parce que l'ami était en vieux vêtements. Le prêtre dit que son père Shake Lee était un homme très honnête, bien que son père fût l'un des plus grands ivrognes de la ville et qu'il battait son fils. Dans son ivresse, son fils avait eu l'habitude de désarmer son père de son arme, ce qui avait rendu le fils expert en la matière. Après cela, Shake Lee s'en alla à cheval sans donner de mandat d'écrou au constable. Mais cela fit un tel bruit dans la contrée que les amis persuadèrent au jeune homme d'aller vivre à Londres en se tenant hors de portée de Shake Lee. J'ai eu cette histoire directement de la bouche de Will Gandy. Dans le Staffordshire et le Cheshire, nous eûmes de nombreuses réunions grandes et précieuses. J'en eus une très grande chez William Barne, à environ 2 miles de Warrington, et bien que souffrant de la goutte, le colonel Kirby reprenait alors ses voyages, aussi violents qu'auparavant pour dissoudre les réunions, et il se trouvait alors à Warrington, le Seigneur ne lui permit pas de venir à cette réunion, et ainsi nous fûmes préservés de ses mains. Alors le Seigneur me poussa à passer en Irlande pour visiter la semence de Dieu dans cette nation. Robert Lodge, James Lancaster, Thomas Brigg et John Stubb m'accompagnèrent. Nous attendîmes près de Liverpool un navire disponible et le vent convenable. Après avoir attendu quelques jours, nous envoyâmes James Lancaster acheter un passage pour 4 ou 5 hommes sans nommer les hommes, car c'était le comté natal du colonel Kirby, et il avait dit qu'il paierait 40 livres et parcourait 40 000 pour le saisir Fox, et qu'il avait un ordre du roi, ce que plusieurs lui rapportèrent, montrant ainsi son inimitié envers la vérité. Quand James nous rapporta que le navire était prêt et destiné au port de Blackrock en Irlande, nous y allâmes à pied. J'étais épuisé par la marche car la distance était assez grande, et il faisait très chaud ce jour-là. À notre arrivée, le navire n'était pas là, nous fûmes donc obligés d'aller en ville et d'y prendre un bateau. Une fois à bord, je dis au reste de la compagnie, « Allons, vous triompherez dans le Seigneur car nous aurons bon vent et beau temps. » Beaucoup de passagers du navire étaient malades, mais aucun de notre compagnie ne le fut. Le capitaine et beaucoup de passagers étaient très affectueux, et étant en mer un premier jour, je fus poussé à déclarer la vérité parmi eux. Alors le capitaine dit aux passagers, « Venez, voici des choses que vous n'avez jamais entendues de votre vie. » Lorsque nous arrivâmes à Dublin, nous prîmes une barque et gagnâmes la rive. Il me sembla que la terre et l'air exhalaient la corruption de la nation, une odeur différente pour moi de celle de l'Angleterre, que j'attribuais à la corruption et au massacre papiste qui y avait été commis, et au sang qui y avait été versé, d'où s'élevait une infection. Nous passâmes quatre fois parmi les agents des douanes, pourtant ils ne nous fouillèrent pas, car ils perçurent ce que nous étions. Certains étaient si envieux qu'ils ne voulaient même pas nous regarder. Nous ne trouvâmes pas immédiatement les amis, mais nous allâmes dans une auberge et envoyâmes demander après eux. Ils furent extrêmement heureux de notre venue et nous reçurent avec grande joie. Nous y restâmes pour la réunion hebdomadaire, très nombreuse, et la puissance et la vie de Dieu s'y manifestèrent grandement. Ensuite, nous passâmes à une réunion provinciale, qui dura deux jours. Il y avait une réunion d'hommes au sujet des pauvres, et une autre, plus générale, où une puissante puissance du Seigneur apparut. La vérité fut déclarée avec amour, et les amis furent grandement rafraîchis dans la réunion. De là, ayant parcouru environ 24 milles, nous arrivâmes dans un autre lieu, où nous eûmes une très bonne réunion, rafraîchissante, après quoi quelques papistes se fâchèrent et s'emportèrent violemment. Quand je l'appris, j'envoyai chercher l'un d'eux, un maître d'école, mais il ne voulut pas venir. Alors je lui lançai un défi, ainsi qu'à tous les frères mendiants, moines, prêtres et jésuites, de se présenter et d'éprouver leur Dieu et leur Christ, qu'ils fabriquent de pain et de vin. Nous allâmes à New Garden, où il y eut une grande réunion. De là, nous voyageâmes parmi les amis jusqu'à Bandon Bridge et Land's End, ayant de nombreuses réunions en chemin, dans lesquelles la puissante puissance du Seigneur se manifesta, les amis furent bien rafraîchis et beaucoup de gens furent touchés par la vérité. Arrivant dans une ville, au temps de ce qu'ils appellent les fêtes de la Pentecôte, les rues étaient pleines de gens irlandais qui revenaient de la messe. Je demandai leurs jésuites et leurs prêtres, et le peuple demanda dans quel but. Je répondis, « Je leur donnerai deux pences pour leur peine à dire une messe de deux pences pour mon cheval, ce qui n'est pas déraisonnable, puisqu'ils ont une messe pour les chandelles et une messe pour les agneaux. Pourquoi mon cheval n'aurait-il pas une messe aussi bien que les chandelles et les agneaux, car c'est une bonne créature ? Dans beaucoup de villes et cités, je demandai la même messe, et les papistes demandèrent pourquoi je me mêlais de leur religion, mais je n'obtins d'eux aucune réponse. Je leur dis donc, « Vous êtes pire que les prêtres de Baal, car les prêtres de Baal ont mis à l'épreuve leur dieu de bois, mais ceux-ci n'osent pas éprouver leur dieu de pain et de vin, et les prêtres et le peuple de Baal ne mangeaient pas leur dieu astérisque comme ceux-ci le font, puis en font un autre. » L'astérisque Fox fait référence à la croyance catholique romaine selon laquelle, si un prêtre prononce une prière sur le pain et le vin, ceux-ci sont miraculeusement transformés en le corps et le sang du Christ. L'épreuve qu'il proposait consistait à prendre du pain et du vin, à diviser chacun en deux, à accomplir leur magie sur une moitié et à voir si elle dure plus longtemps que le pain sur lequel aucun sort n'aurait été pratiqué. À Bandon, la femme du maire, étant convaincue, désira que son mari vînt à la réunion, mais il lui dit, pour sauvegarder sa vie, qu'elle ne devait pas révéler que j'étais à une réunion là-bas. Le maire de Coke de l'époque, étant très envieux contre la vérité et les amis, avait beaucoup d'amis en prison, et sachant que j'étais dans la région, il envoya quatre mandats pour me prendre. Aussi les amis désirèrent-ils que je ne traverse pas Coke à cheval. Mais étant à Bandon, il m'apparut en vision un homme au visage très laide, au regard noir et sombre. Mon esprit le frappa dans la puissance de Dieu, et il me sembla que je lui passais dessus avec mon cheval, et que mon cheval posait le pied sur le côté de son visage. Le matin, quand je descendis, je dis à un ami que l'ordre du Seigneur pour moi était de traverser Coke à cheval, mais je lui dis de ne le dire à personne. Nous prîmes donc des chevaux, beaucoup d'amis étant avec moi. Quand nous approchâmes de la ville, les amis auraient voulu que je me rende dans leur maison. Je savais que cela me ferait tomber dans le feu, je restai donc sur mon cheval, ce qui était l'ordre de Dieu, et je passai pur et net, car la parole me fut donnée que mon cheval était le meilleur moyen de les vaincre et qu'il passerait tout près d'eux. D'autres amis auraient voulu me montrer un chemin par l'arrière, mais je leur dis que mon chemin était par les rues. Ils me dirent que ce chemin était très glissant, le marché étant à son comble, et que je ne devais pas y aller, et que mon cheval ne pourrait pas tenir. Je leur dis que cela importait peu et demandai lequel d'entre eux chevaucherait à travers la ville avec moi. Tous les autres restèrent en arrière pendant que je pris Paul Maurice pour me guider à travers la ville. Je m'avançai, et comme nous traversions la place du marché et passions devant la porte du maire, lui, me voyant, dit « Voilà George Fox », mais il n'eut aucun pouvoir pour m'arrêter. Comme j'étais généralement reconnu, Il y eut un grand feu dans le cœur et l'esprit des gens tandis que je chevauchais dans la ville et qu'ils regardaient et épiaient. Quand j'approchai de la prison, les prisonniers et les amis me virent, me reconnurent et tremblèrent de peur que je ne sois arrêté. Lorsque nous eûmes dépassé les sentinelles et franchi le pont, nous allâmes chez un ami et mîmes pied à terre. Là, les amis me dirent dans quelle rage était la ville et combien de mandats avaient été délivrés pour me prendre. Tandis que j'étais assis là avec les amis, je sentis l'esprit mauvais à l'œuvre dans la ville, excitant des méfaits contre moi, et je sentis la puissance du Seigneur frapper cet esprit mauvais. Peu après, d'autres amis arrivant me dirent, « Il court dans la ville et parmi les magistrats que vous êtes en ville. » Je dis, « Que le diable fasse de son pire. » Après un moment, les amis furent rafraîchis par la compagnie les uns des autres, et nous, voyageurs, fûmes aussi rafraîchis. Je demandai mon cheval, et avec un ami pour me guider, nous poursuivîmes notre route. Je compris que le maire et d'autres de coq étaient furieux de m'avoir manqué, et qu'ensuite ils firent de grands efforts pour m'arrêter, en plaçant des éclaireurs sur les routes afin de découvrir par quel chemin j'étais parti. Après cela, presque toutes les réunions publiques auxquelles j'assistais avaient des espions pour me surveiller. Et les magistrats et prêtres envieux échangeaient des renseignements à mon sujet, me décrivant par mes cheveux, mon chapeau, mes vêtements et mon cheval, de sorte que, lorsque j'étais à près de 100 000 de coq, ils avaient un récit et une description de moi avant même que j'arrive parmi eux. Un magistrat très envieux, qui était à la fois prêtre et juge, obtint du juge des assises un mandat pour m'appréhender. Le mandat devait couvrir tout son circuit, qui atteignait près de 100 000. Pourtant le Seigneur déjoua tous leurs conseils, mit en échec tous leurs desseins contre moi, et par sa bonne main de providence me préserva de tous leurs pièges, et nous donna bien des occasions douces et bénies de visiter les amis et de répandre la vérité dans cette nation. Car les réunions étaient très nombreuses, les amis y venant de loin et de près, et d'autres gens s'y pressant. La puissante présence du Seigneur était précieusement ressentie avec et parmi nous. Par elle, beaucoup de ceux du monde furent touchés, convaincus, rassemblés à la vérité, le troupeau du Seigneur s'accrut, et les amis furent grandement rafraîchis et consolés en ressentant l'amour de Dieu. Oh, quelle brisure y avait parmi eux dans les écoulements de la vie, de sorte que, dans la puissance et l'esprit du Seigneur, beaucoup, ensemble, ont éclaté en chants, même à voix audible, faisant mélodie dans leur cœur. En ce temps-là, je fus poussé à déclarer aux amis, dans le ministère, ce qui suit, sonnez, sonnez au loin, vous fidèles serviteurs du Seigneur, témoins en son nom, fidèles serviteurs, prophètes du trésor, et anges du Seigneur, sonnez tous au loin dans le monde pour éveiller et relever les morts, afin qu'ils soient réveillés et relevés hors de la tombe pour entendre la voix qui est vivante. Car les morts ont longtemps écouté les morts, et les aveugles ont longtemps erré parmi les aveugles, et les sourds parmi les sourds. Sonnez donc, sonnez, vous serviteurs, prophètes et anges du Seigneur, vous trompettes du Seigneur, afin que vous réveilliez les morts, que vous réveilliez ceux qui dorment dans leur tombe de péché, de mort et d'enfer, de mer et de terre, et qui gisent dans les sépulcres. Sonnez, sonnez au loin, vous trompettes et relevez les morts, afin que les morts entendent la voix du Fils de Dieu, la voix du second Adam qui ne tomba jamais, la voix de la lumière, la voix de la vie, la voix de la puissance, la voix de la vérité, la voix du juste et la voix de l'équitable. Sonnez, sonnez le son agréable et mélodieux. Sonnez, sonnez, vous trompettes, le son mélodieux au loin, afin que toutes les oreilles sourdes s'ouvrent pour entendre le son agréable de la trompette pour le jugement et la vie, pour la condamnation et la lumière. Sonnez, sonnez vos trompettes au loin, vous anges du Seigneur, filles et filles, prophètes du trésor, afin que tous ceux qui sont morts et endormis dans les tombes, qui ont longtemps rêvé et sommeillé, soient réveillés et entendent la voix de l'agneau, eux qui ont longtemps entendu la voix de la bête, afin qu'à présent ils entendent la voix de l'époux, la voix de l'épouse, la voix du grand prophète, la voix du grand roi, la voix du grand berger et évêque de leurs âmes. Sonnez, sonnez le au loin, vous trompettes parmi les morts en Adam, car Christ est venu, le second Adam, afin qu'ils aient la vie, oui, qu'il l'ait en abondance. Réveillez les morts, réveillez les assoupis, réveillez les rêveurs, réveillez ceux qui dorment, réveillez les hors de leur tombe, hors de leur tombeau, hors de leur sépulcre, hors des mers. Sonnez, sonnez au loin, vous trompettes qui réveillez les morts, afin qu'ils en entendent tous le son dans les tombes, et que ceux qui entendent vivent et viennent à la vie, qui est le Fils de Dieu. Il est ressuscité des morts, la tombe ne pouvait ni le retenir ni le contenir, pas plus que tous les gardiens de la terre, avec toutes leurs gardes, ne pouvaient le garder là. Sonnez, sonnez, vous trompettes du Seigneur, à tous ceux qui cherchent le vivant parmi les morts, qu'il est ressuscité des morts, à tous ceux qui cherchent le vivant parmi les morts, et dans les tombes que gardent les veilleurs, il n'est pas dans la tombe, il est ressuscité, et il y a, sous la tombe des veilleurs de la tombe extérieure, quelque chose qui doit être éveillé et venir entendre sa voix, lui qui est ressuscité des morts, afin qu'il vienne à la vie. Sonnez donc au loin, vous trompettes du Seigneur, afin que la tombe rende ses morts, et que l'enfer et la mer rendent leurs morts, et que tous puissent sortir pour le jugement du Seigneur devant son trône, et recevoir leur sentence et leur récompense selon leurs œuvres. Qu'on ôte toute la paille et les balles, les crêles et les disputes, dont les porcs se repaissent dans la boue, et dans la chute, et les gardiens de la maison d'Adam et Ève dans la chute, qui gisent dans la fange, hors de la lumière et de la vie. George Fox chez James Hutchinson, en Irlande, vinrent plusieurs grands personnages désirant s'entretenir avec moi au sujet de l'élection et de la réprobation. Je leur dis, bien que vous jugiez notre principe insensé, il est trop élevé pour vous, votre sagesse ne peut le comprendre, je m'entretiendrai donc avec vous selon vos capacités. Vous dites, dis-je, que Dieu a ordonné la plus grande partie des hommes pour l'enfer, et qu'ils y furent ordonnés avant que le monde ne commence, et votre preuve en est dans Jude. Vous dites qu'Ésaü fut réprouvé ainsi que les Égyptiens et la race de Cham, mais Christ dit à ses disciples, « Allez enseigner toutes les nations, et allez dans toutes les nations, et prêchez l'évangile de vie et de salut. S'il devait aller vers toutes les nations, n'était-il pas censé aller vers la race de Cham et la race d'Ésaü ? Christ n'est-il pas mort pour tous ?» Donc aussi pour la race de Cham, d'Ésaü et pour les Égyptiens, l'Écriture ne dit-elle pas, « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés » Notez, « Tous les hommes, donc aussi la race d'Ésaü et celle de Cham. » Dieu ne dit-il pas, « L'Égypte, mon peuple, et qu'il aurait un autel en Égypte » Ésaïe 19, 25. N'y eut-il pas autrefois beaucoup de chrétiens en Égypte ? Et l'histoire ne dit-elle pas que l'évêque d'Alexandrie aurait autrefois été pape, et Dieu n'avait-il pas une église à Babylone ? Je reconnais, la parole vint à Jacob, et les statuts à Israël, il n'en fut pas ainsi pour les autres nations, car la loi de Dieu fut donnée à Israël. Mais l'Évangile devait être prêché à toutes les nations, et il doit l'être. L'évangile de paix et de bonne nouvelle pour toutes les nations. Celui qui croit est sauvé, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, ainsi la condamnation venait de l'incrédulité. Et lorsque Jude parle de certains qui furent autrefois ordonnés ou écrits d'avance pour la condamnation, il ne dit pas avant que le monde ne commence, mais écrit d'autrefois, ce qui peut se rapporter aux écrits de Moïse, qui écrivit au sujet de ce que Jude mentionne, à savoir Caïn, Corée, Balaam et les anges qui ne gardèrent pas leur premier état, et les chrétiens qui ensuite suivirent leur voie apostasière du premier état du christianisme, furent et sont ordonnés à la condamnation par la lumière et la vérité dont ils se... Et bien que l'apôtre parle de Dieu aimant Jacob et haïssant Ésaü, il dit pourtant aux croyants, « Nous étions tous par nature des enfants de colère, comme les autres. » Cela inclut la descendance de Jacob, dont l'apôtre lui-même et tous les juifs croyants faisaient partie. Ainsi juifs et gentils furent tous inclus sous le péché, et donc sous la condamnation, afin que Dieu ait miséricorde envers tous par Jésus-Christ. Ainsi, l'élection et le choix se tiennent en Christ, celui qui croit est sauvé, et celui qui ne croit pas est déjà condamné. Jacob figure la seconde naissance que Dieu a aimée, et juifs et gentils doivent tous naître de nouveau avant de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Quand vous serez nés de nouveau, vous connaîtrez l'élection et la réprobation. Car l'élection se tient en Christ, la semence, avant que le monde ne commence, mais la réprobation se tient dans la mauvaise semence depuis que le monde a commencé. Et de cette manière, mais un peu plus au long, je m'entretins avec ces grands personnages de cette question, et ils reconnurent n'avoir jamais entendu autant de choses auparavant. Après avoir parcouru l'Irlande et visité les amis dans leurs réunions, tant pour les affaires que pour le culte, et répondu à plusieurs papiers écrits de moines, frères mendiants et prêtres protestants, car tous étaient en rage contre nous et s'efforçaient d'arrêter l'œuvre du Seigneur, et quelques jésuites jurèrent à portée de notre oreille que nous étions venus répandre nos principes dans cette nation, mais que nous ne le ferions pas, je retournai à Dublin afin de prendre passage pour l'Angleterre. Après avoir assisté à la réunion du premier jour, très grande et précieuse, et un navire étant prêt, le vent favorable, nous prîmes congé des amis, nous séparant avec beaucoup de tendresse et de brisure, dans le sentiment de la vie et de la puissance céleste qui s'était manifestée parmi nous. Après avoir mis nos chevaux et nos nécessités à bord le matin, nous y allâmes nous-mêmes l'après-midi, beaucoup d'amis nous accompagnant jusqu'au navire, et malgré le danger, beaucoup de gens amicaux nous suivirent en barque sur environ 3 000, leur amour les y poussant. Mais je sentis la puissance des ténèbres jusqu'à 20 000 en mer depuis l'Irlande. Il y a dans cette nation un peuple bon, posé et sincère, sensible à la puissance du Seigneur Dieu, tendre envers sa vérité, et ils ont un très bon ordre dans leurs réunions, car ils défendent la justice et la sainteté, ce qui barre la voie à la méchanceté. Ils ont eu une précieuse visitation, et il y a en eux un excellent esprit, digne d'être visité. Je pourrais écrire bien d'autres choses au sujet de l'Irlande et de mes voyages en ce pays, qui, si elles étaient détaillées, seraient considérables, mais j'ai jugé bon d'indiquer au moins l'importance de ceci, afin que les justes se réjouissent de la prospérité de la vérité là-bas. James Lancaster, Robert Lodge et Thomas Brigg revinrent avec moi, John Stubb, ayant encore du service là-bas, resta derrière. Nous passâmes deux nuits en mer, l'une d'elles, une violente tempête s'éleva et mit le navire en grand danger, mais je vis que la puissance de Dieu dominait les vents et les tempêtes, qu'il les tenait dans sa main et que sa puissance les liait. Et la même puissance du Seigneur Dieu, qui nous avait portés au-delà, nous ramena de nouveau, et dans sa vie, nous donna la domination sur tous les esprits mauvais qui s'y opposaient. Nous débarquâmes à Liverpool, et allâmes chez Richard Johnson, chez William Barnes et chez William Gandy, visitant les amis et tenant beaucoup de réunions précieuses dans le Lancashire et le Cheshire. Nous poussâmes vers Bristol, et lorsque nous entrâmes dans le Gloucestershire, nous entendîmes à Nailsworth un bruit qui s'était répandu dans cette région. George Fox était devenu presbytérien, une chaire avait été préparée pour lui et dressée dans une cour, et il y aurait 1000 personnes le lendemain pour l'entendre. Je trouvais étrange qu'un tel bruit courût sur moi, pourtant à mesure que nous allions plus loin, d'une maison d'amis à l'autre, nous l'entendions répéter sans cesse. Nous passâmes devant la cour où se trouvait la chaire, la vîmes, puis allâmes à l'endroit où devait se tenir la réunion des amis le lendemain, et y passâmes la nuit. Le lendemain, étant le premier jour, nous eûmes une réunion très nombreuse, et la puissance et la présence du Seigneur étaient parmi nous. L'occasion de cet étrange bruit, comme on m'en informa, fut la suivante. Il y avait un certain John Fox, prêtre presbytérien, qui allait prêcher de lieu en lieu, et certains, changeant son prénom de John en George, répandirent que George Fox avait quitté les Quakers pour devenir presbytérien et qu'il prêcherait à tel endroit tel jour. Cela éveilla une telle curiosité parmi le peuple que beaucoup allèrent là pour entendre ce Quaker devenu presbytérien, qui n'aurait pas été entendre John Fox lui-même. De cette façon, on rapporta qu'ils avaient attiré plus de 1000 personnes. Mais quand ils arrivèrent et s'aperçurent qu'on s'était joué d'eux, qu'il ne s'agissait que d'un faux George Fox, et qu'ils apprirent que le vrai George Fox se trouvait tout près, plusieurs centaines vinrent à notre réunion et furent sérieux et attentifs. Je les dirigeai vers la grâce de Dieu en eux-mêmes, qui les instruirait et leur apporterait le salut. Ainsi, les gens virent généralement la supercherie des presbytériens et en eurent honte, et la puissance et la vérité du Seigneur triomphèrent de tout. Lorsque la réunion fut terminée, certains du peuple dirent qu'ils aimaient mieux la prédication de George Fox le Quaker que celle de George Fox le presbytérien. Après m'être acquitté du service du Seigneur là-bas, je poursuivis mon chemin, et il y avait un boutiquier Thomas Atkin et sa femme, qui habitaient non loin de là à Nailsworth. Ils me dirent qu'il y avait une réunion séparée des presbytériens, et qu'ils faisaient prêter à leurs gens un serment selon lequel ils ne devaient ni acheter ni vendre, ni manger ni boire avec les amis. La principale, parmi les femmes, tomba malade d'un engourdissement tel qu'elle ne pouvait ni bouger la main ni le pied, et tous les médecins ne purent rien faire pour l'aider. Deux ou trois de leurs femmes vinrent à la boutique et firent semblant d'acheter quelque chose à la femme de Thomas Atkin. Elle leur montra les choses qu'elles demandaient. Dans leur conversation, elles avouèrent avoir prêté le serment susdit, mais la raison de leur venue était la femme qui gisait dans la misère de l'engourdissement, et elle demandait son aide et son conseil pour sa guérison. La femme d'Atkin leur demanda comment elle pouvait se dispenser de leur serment, et elles dirent qu'elle était forcée de le rompre. Alors la femme de Thomas Atkin s'occupa de la malade et la guérit. Et ainsi le Seigneur brisa les liens méchants des presbytériens, dont ils avaient pris leurs gens au piège. On pourrait écrire bien davantage sur ces choses. Peu après, ce John Fox fut dénoncé à la Chambre des communes, pour avoir tenu une réunion tumultueuse, où des paroles séditieuses avaient été prononcées, ce qui, d'après les meilleurs renseignements que j'ai pu obtenir, s'était passé ainsi. John Fox avait autrefois été prêtre de Mansfield, dans le Wiltshire, et ayant été chassé de ce lieu, il lui fut ensuite permis par un prêtre du culte anglican de prêcher parfois dans son église. À la longue, ce prêtre presbytérien, présumant trop de l'autorisation antérieure du prêtre de paroisse, se mit à être plus hardi qu'on ne le souhaitait, et tenta d'y prêcher qu'il en eût ou non l'agrément. Cela provoqua un grand conflit et une contestation dans l'église entre les deux prêtres et leurs auditeurs respectifs, au cours de laquelle le livre de la prière commune fut mis en pièces, et comme on le disait, des paroles séditieuses furent prononcées par certains des partisans de John Fox. Cela fut vite publié dans les nouvelles, et quelques presbytériens malveillants firent en sorte que cela fût formulé comme si cela venait de George Fox le Quaker, alors que j'étais à plus de 200 milles de l'endroit lorsque ce conflit eut lieu. Quand je l'appris, j'obtins bientôt des attestations de certains membres de la Chambre des communes qui connaissaient cet homme et qui certifièrent de leurs mains que c'était John Fox, autrefois pasteur de Mansfield, dans le Wiltshire, qui avait été dénoncé à la Chambre des communes comme le principal meneur de cette assemblée illégale. Et en vérité, ce John Fox se montra être un mauvais homme, car certains de ceux qui avaient été ses disciples furent convaincus de la vérité et en conséquence le quittèrent, sur quoi il vint dans quelques-unes de leurs maisons pour s'entretenir avec eux, et lui disant qu'il marchait sur les traces des faux prophètes, prêchant pour salaire et gain honteux, comme ceux contre lesquels Christ a prononcé malheur, et que les apôtres ont dénoncé tels que ceux qui ne servent pas le Seigneur Jésus-Christ mais leur ventre, et lui rappelant que Christ a dit « Vous remplissez-moi le ventre de bon mets, ensuite, appelez-moi faux prophète ou ce que vous voudrez, et chassez-moi à coups de pied dans la maison quand vous aurez fini, si vous le voulez. » Ce récit, je le tiens d'un homme et de sa femme, qui avaient autrefois été de ses auditeurs, et que John Fox, avec d'autres, fit cruellement souffrir. Car lui et quelques autres prêtres presbytériens se rendirent chez une veuve, qui avait droit aux dîmes de son mari défunt et percevait les dîmes de la paroisse. Elle leur dit qu'il y avait dans cette paroisse un Quaker qui ne voulait pas lui payer la dîme, et demanda ce qu'elle devait faire avec lui. Ils lui conseillèrent d'envoyer des ouvriers couper et emporter son blé, ce qu'elle fit, et par là appauvrit l'homme. Mais pour continuer, après cette réunion dans le Gloucestershire, nous voyageâmes jusqu'à Bristol, où je rencontrai Margaret Fell, venue visiter sa fille Isabelle Yeoman. J'avais vu du Seigneur, un temps considérable auparavant, que je devais prendre Margaret Fell pour femme, et lorsque je lui en parlai pour la première fois, elle en ressentit la réponse de vie venant de Dieu. Mais bien que le Seigneur m'eût ouvert cette chose, je n'avais pas encore reçu de lui le commandement de l'accomplir alors. Je laissai donc la chose en repos et poursuivis l'œuvre et le service du Seigneur, selon qu'il me conduisait, voyageant de haut en bas dans cette nation et à travers l'Irlande. Mais maintenant, étant à Bristol et y trouvant Margaret Fell, il s'ouvrit en moi, de la part du Seigneur, que cela devait s'accomplir. Après en avoir parlé ensemble, je lui dis que, si elle aussi était satisfaite qu'on l'accomplît à présent, elle devait d'abord faire venir ses enfants, ce qu'elle fit. Lorsque le reste de ses filles arrivèrent, je leur demandai, ainsi qu'à ses gendres, s'ils avaient quelque chose contre ou pour cela, désirant qu'ils parlent, et tous exprimèrent, chacun en particulier, leur satisfaction quant à la proposition. Puis je demandai à Margaret si elle avait exécuté la volonté de son mari envers ses enfants. Elle répondit que les enfants savaient qu'elle l'avait fait. À ce moment-là, je leur demandai si leur mère se remariait, ils n'y perdraient pas. Et je demandai à Margaret si elle avait fait quelque chose qui puisse faire différence à cet égard, auquel cas elle pourrait en parler aux enfants. Les enfants dirent qu'elle leur avait répondu là-dessus et me prièrent de ne plus en parler. Je leur dis, je suis franc, et je veux que toute chose soit faite franchement, car je ne cherche aucun avantage extérieur pour moi-même. Ainsi notre intention de mariage fut soumise aux amis, tant en privé qu'en public, à leur pleine satisfaction, beaucoup d'entre eux en rendant témoignage, car cela venait de Dieu. Ensuite, une réunion ayant été fixée pour le mariage dans la maison de réunion publique de Broadmead, à Bristol, nous nous prîmes l'un l'autre en mariage, le Seigneur nous unissant ensemble dans ce mariage honorable, dans l'alliance éternelle et la semence immortelle de vie. Pendant cette union, des témoignages vivants et graves furent exprimés par des amis, selon qu'ils étaient poussés par la puissance céleste qui nous unissait. Puis un certificat, relatant tant la procédure que le mariage, fut lu publiquement et signé par les proches et par la plupart des anciens amis de cette ville, ainsi que par beaucoup d'autres venus de diverses régions de la nation. Après notre mariage, nous restâmes environ une semaine à Bristol, puis nous allâmes ensemble à Holston, où, prenant congé l'un de l'autre dans le Seigneur, nous nous séparâmes, chacun se rendant à son service particulier, Margaret retournant vers le nord, et moi poursuivant l'œuvre du Seigneur comme auparavant. Je voyageai à travers le Wiltshire, le Berkshire, l'Oxfordshire et le Buckinghamshire, et ainsi jusqu'à Londres, visitant les amis. Dans tous ces comtés, j'eus de nombreuses réunions grandes et précieuses. Étant à Londres, je fus poussé à écrire aux amis dans toute la nation au sujet de placer les enfants pauvres en apprentissage. C'est pourquoi j'envoyai l'épître suivante aux réunions trimestrielles des amis dans tous les comtés. Mes chers amis, que chaque réunion trimestrielle s'informe, auprès de toutes les réunions mensuelles et autres, de tous les amis qui sont pauvres, des veuves ou d'autres, qui ont des enfants en âge d'être placés en apprentissage, afin que, une fois par trimestre, vous puissiez faire partir un apprenti depuis votre réunion trimestrielle. Ainsi vous pourrez en placer 4 par an, dans chaque comté ou davantage s'il y a lieu. Cet apprenti, lorsqu'il aura terminé son temps, pourra aider son père ou sa mère et soutenir la famille qui s'est appauvrie, et ce faisant, tous pourront vivre commodément. Cela étant fait dans vos réunions trimestrielles, vous aurez, dans tout le comté, par les réunions mensuelles et particulières, connaissance de maîtres qui leur conviennent et des métiers que leurs parents ou vous désirent ou pour lesquels les enfants sont le plus portés. Ainsi placés chez des amis, ils pourront être élevés dans la vérité et, par ce moyen, dans la sagesse de Dieu, vous pourrez préserver les enfants des amis dans la vérité et leur permettre d'être une force et un secours pour leurs familles, ainsi que des soutiens et des gardiens de leurs proches dans leur vieillesse. Ainsi aussi, les choses étant ordonnées dans la sagesse de Dieu, vous supprimerez un entretien continuel et vous vous délivrerez d'un grand fardeau. Car à la campagne, vous le savez, on peut placer un apprenti pour peu de choses à divers métiers, tels que briquetier, maçon, charpentier, charron, fabricant de charrues, tailleur, tanneur, teinturier de cuir, forgeron, cordonnier, fabricant de clous, boucher, tisserand de toile de lin et d'étoffe de laine, et autres métiers de la laine, etc. Et vous ferez bien d'avoir des fonds réservés dans vos réunions trimestrielles à cette fin. Tout ce que des amis laissent à leur décès, sauf si cela est donné pour un usage, à une personne ou à une réunion en particulier, peut être versé au fonds public à cette fin. Ce sera un moyen de préserver beaucoup de ceux qui sont pauvres parmi vous, et ce sera un moyen d'aider financièrement les familles pauvres. Dans plusieurs comtés, cela se pratique déjà. Certaines réunions trimestrielles prennent en charge deux apprentis, et parfois les enfants d'autres personnes qui sont à la charge de la paroisse. Vous pouvez les engager pour moins ou plus d'années, selon leur capacité. En toutes ces choses, la sagesse de Dieu vous instruira, par elle vous pourrez aider les enfants des amis pauvres, afin qu'ils puissent relever leur famille et les conserver dans la crainte de Dieu. Je m'arrête là, et vous laisse mon amour dans la semence éternelle, par laquelle vous aurez la sagesse d'ordonner toutes choses à la gloire de Dieu. George Fox 4 Londres, le premier jour du 11 mois, 1669. Je ne restais pas longtemps à Londres, mais, ayant visité les amis et trouvé les choses là paisibles et en bon état, la puissance du Seigneur étant au-dessus de tout, je passai dans l'Essex et le Hertfordshire, où j'eus de nombreuses réunions précieuses. Mais avant de quitter Londres, ayant l'intention d'aller jusqu'au Leicestershire, j'écrivis une lettre à ma femme pour lui faire savoir que, si elle le trouvait commode, elle pourrait m'y rejoindre. Du Hertfordshire, je me dirigeai vers le Cambridgeshire, puis vers l'Huntingdonshire, et ainsi vers le Leicestershire, où, au lieu de rencontrer ma femme, j'appris qu'elle avait été arrêtée et emmenée hors de sa maison à la prison de Lancaster, sur un ordre obtenu du roi et du conseil pour la renvoyer en prison en vertu de l'ancienne mise en accusation, bien qu'elle eût été libérée de cet emprisonnement par un ordre du roi et du conseil l'année précédente. Ainsi, ayant visité les amis jusqu'au Leicestershire, je revins à Londres en passant par le Derbyshire et le Warwickshire. Ayant tenu de nombreuses réunions vastes et bénies dans les divers comtés traversés, et ayant été doucement réconforté parmi les amis durant mes voyages. Walter Newton, un voisin de mes proches, qui avait été un ancien puritain, dit qu'il avait entendu que j'étais marié, et il me demanda pourquoi je m'étais marié. Je lui dis que c'était un témoignage afin que tous puissent parvenir au mariage, comme au commencement, et comme un témoignage afin que tous puissent sortir du désert pour aller aux noces de l'agneau. Il dit qu'il pensait que le mariage n'était fait que pour la procréation des enfants. Je lui dis, « Je n'ai jamais pensé à une telle chose, mais je me suis mariée seulement par obéissance à la puissance du Seigneur, je jugeais de telles choses au-dessous de moi. J'avais prévu ce mariage dans la semence, pourtant je n'avais reçu aucun commandement de me marier avant il y a 6 mois, bien que les gens aient longtemps parlé de mon éventuel mariage. L'esprit de certaines personnes était embrouillé, mêlé, confus au sujet de ce mariage, mais la puissance du Seigneur vint sur tous et apaisa tous leurs esprits, ce que certains reconnurent ensuite. » Note, lorsque Fox visita Swarthmoor pour la première fois, convainquant Margaret Fell, il convainquit aussi toute la maisonnée, y compris les domestiques. Toutes ses filles éprouvèrent une grande affection pour George Fox à partir de ce moment-là, plusieurs devenant elles-mêmes ministres. Aussitôt arrivées à Londres, j'attis Mary Lowe et Sarah Fell, deux des filles de ma femme, d'aller auprès du roi, afin de l'informer de la manière dont leur mère avait été traitée, et voir si elle pouvait obtenir pour elle une décharge complète, afin qu'elle puisse jouir de ses biens et de sa liberté sans être inquiétée. Cela fut quelque peu difficile, mais par une assidue persévérance elle l'obtint enfin, le roi donnant ordre à Sir John Oatley de faire connaître sa volonté à ce sujet par lettre au shérif et aux autres personnes concernées à la campagne. Cette lettre, Sarah Fell, descendant avec son frère et sa sœur Rose, l'emporta avec elle à Lancaster, et par eux j'écrivis à ma femme comme suit. Mon cher cœur dans la vérité et la vie, qui ne change pas, il m'a été donné de faire aller Mary Lowe et Sarah vers le roi au sujet de ton emprisonnement, et vers Kirby, afin que la puissance du Seigneur apparaisse sur eux tous dans ta délivrance. Elles y allèrent, et elles pensèrent ensuite descendre, mais il m'a été donné de les retenir encore un peu, afin qu'elles poursuivent l'affaire jusqu'à ce qu'elles soient menées à effet, ce qui est maintenant fait et est envoyé ici. Ma dernière déclaration a été très utile, les gens en étant généralement satisfaits. Je m'arrête là, sinon mon amour dans la sainte semence. George Fox, la déclaration ici mentionnée, était une feuille imprimée, écrite à l'occasion d'une nouvelle persécution suscitée. car au moment où j'arrivais à Londres, une nouvelle tempête s'était levée provoquée, pensait-on, par cette réunion tumultueuse dans une église à clocher dans le Wiltshire, le Gloucestershire, mentionnée un peu plus haut dont, disait-on, certains membres du Parlement profitèrent pour faire adopter une loi contre les réunions séditieuses, laquelle parut peu après, et fut tournée contre nous, qui de tous les gens étions exempts de sédition et de tumulte. Pendant que George Fox était enfermé en prison, les souffrances des amis furent grandement accrues par l'adoption de la loi justement appelée « l'infâme Conventicle Act ». Elle déclarait que toute personne âgée de 16 ans et plus, qui serait trouvée à toute réunion ou conventicule, sous couvert ou prétexte d'un exercice de religion, autrement que de la manière permise par la liturgie de l'Église d'Angleterre, et où 5 personnes ou plus seraient assemblées, en plus de celles de la même maisonnée, seraient condamnées à une amende de 5 livres pour la première infraction, ou emprisonnées pour un terme n'excédant pas 3 mois, pour une seconde infraction, 10 livres et un emprisonnement de 6 mois au plus, tant. Cette loi entra en vigueur le 1er du 7e mois, 1664, et suscita les justes et vives critiques des personnes les plus réfléchies d'Angleterre. On mit en avant son atteinte à l'intimité de la vie domestique, son encouragement aux espions et aux dénonciateurs, et le résultat probable consistant à expulser du pays des citoyens de bonne réputation morale, travailleurs et contribuant à la richesse publique, et l'on avertit les détenteurs du pouvoir qu'une telle méchanceté attirerait tôt ou tard les jugements de Dieu sur le peuple. Elle visait, semble-t-il, tous les non-conformistes, mais fut rarement appliquée contre d'autres que les amis, qui bientôt encombrèrent les prisons parce qu'ils ne voulaient pas renoncer à leur liberté de conscience. L'un d'entre eux, George Whitehead, proclama dans un pamphlet publié à cette époque, « Puisque nos réunions se tiennent dans l'obéissance au Seigneur Dieu et selon la liberté qu'il nous a donnée, nous ne pouvons pas cesser notre témoignage pour Dieu en cette affaire, mais nous devons lui être fidèles, quoi que nous souffrions à ce sujet. » Profitant de leur fidélité dans l'accomplissement de ce devoir, les magistrats hâtèrent leur procédure afin que la nation fût délivrée de ce peuple supposé dangereux, dont la présence était jugée si odieuse. Après avoir dispersé une réunion, les personnes présentes étaient envoyées en prison pour quelques jours, et une fois remises en liberté, si on les retrouvait de nouveau à leur réunion, on suivait la même voie, et avant le 12 du 8e mois, 6 semaines seulement après l'adoption de la loi, 8 personnes furent traduites en justice pour la 3e infraction. Leur acte d'accusation fut soumis au grand jury, qui ne put s'accorder sur un verdict et refusa de retenir l'accusation. Le juge, toutefois, insistant pour qu'ils reconsidèrent leur avis, ils rendirent un verdict contre les prisonniers. Le juge dit alors aux amis que, s'ils promettaient de ne plus assister à aucune réunion, ils pourraient être relâchés. Cela, bien sûr, ils ne pouvaient le faire, et furent en conséquence condamnés comme esclaves à être transportés au-delà des mers, certains vers l'île de la Barbade, d'autres vers la Jamaïque. Une nouvelle difficulté surgit alors, car les capitaines des navires en partance pour ces ports ne voulaient pas embarquer de tels passagers. L'un d'eux fut finalement contraint de les prendre à bord de son navire, lequel fut ballotté par des vents contraires et ne pouvait avancer. Après avoir croisé pendant 2 mois, le capitaine et les marins devinrent si inquiets qu'ils débarquèrent les Quakers inoffensifs à Deal, leur donnant un certificat déclarant qu'ils ne s'étaient pas enfuis, mais avaient été librement mis à terre par le capitaine, qui ajouta « Je n'ai pas osé partir avec ces prisonniers parce que je les ai trouvés honnêtes et qu'ils ne méritaient pas le bannissement. » Les amis retournèrent chez eux et, par lettre, informèrent le roi et le conseil de toute la procédure. Cette lettre fut lue au conseil et ils furent renvoyés en prison jusqu'à ce qu'on puisse trouver quelqu'un pour les emmener. Après un emprisonnement de 7 ans, le roi ordonna leur libération. 200 personnes furent condamnées au bannissement cette année-là et l'année suivante, mais la même difficulté persista, et seulement 17 furent réellement envoyés au loin. Le reste fut maintenu dans des prisons déjà surpeuplées, où beaucoup donnèrent leur vie pour leur religion. Pourtant, la puissance de soutien de leur Dieu était avec eux, comme on le verra par un extrait d'une lettre de l'un de ceux qui fut condamné à la Jamaïque. « Il n'y a point de Dieu semblable à notre Dieu, qui s'est approché de nous au moment du besoin, et qui est présent avec nous pour rafraîchir et réchauffer nos cœurs. » Leur constance se montre dans la réponse d'une femme, lorsqu'on lui demanda ce qu'elle avait à dire au sujet des preuves avancées contre elle. « Si j'avais autant de corps que j'ai de cheveux sur la tête, je les déposerais tous pour la vérité vivante et éternelle du Dieu vivant. » Sur quoi j'écrivis une déclaration montrant, d'après le préambule et les termes de la loi, que nous n'étions pas un tel peuple, ni nos réunions telles que décrites dans cette loi. Outre cette déclaration, j'écrivis aussi un autre court écrit, à l'occasion de cette loi contre les réunions, exposant notre cas aux magistrats comme suit. Ô amis, considérez cette loi, qui limite nos réunions à 5. Est-ce là faire aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse? Voudriez-vous être traités ainsi vous-même? Nous reconnaissons Christ Jésus autant que vous, sa venue, sa mort et sa résurrection. Et si, en certaines choses, nous ne pensons pas comme vous, n'est-ce pas l'exhortation de l'apôtre de attendre jusqu'à ce que Dieu l'ait révélé, ne dit-il pas, tout ce qui n'est pas de la foi est péché. Puisque nous n'avons pas foi dans les choses que vous voudriez nous faire faire, ne serait-ce pas péché pour nous d'agir contre notre foi? Pourquoi un homme aurait-il pouvoir sur la foi d'un autre, puisque Christ en est l'auteur? Quand les apôtres prêchaient au nom de Jésus, et que de grandes multitudes les entendaient, et que les chefs leur défendirent de parler encore en ce nom, ne leur dirent-ils pas de juger s'il valait mieux obéir à Dieu ou aux hommes? Cette loi n'aurait-elle pas saisi les 12 apôtres et les 70 disciples, puisqu'ils se réunissaient souvent? Si à cette époque, une loi avait été faite portant que pas plus de 5 ne devraient se réunir avec Christ, cela ne l'aurait-il pas empêché de se réunir avec ses disciples? Pensez-vous que lui, qui est la sagesse de Dieu, ou ses disciples, y aurait obéi? Si une telle loi avait été faite au temps des apôtres, que pas plus de 5 ne puissent se réunir ensemble, ceux qui pensaient différemment soit des juifs soit des gentils, pensez-vous que les églises de Christ à Corinthe, à Philippe, à Éphèse, à Thessalonique, ou le reste des églises rassemblées, y auraient obéi? Oh, considérez donc. Car nous sommes chrétiens, et nous participons à la nature et à la vie de Christ, ne vous efforcez pas de limiter le saint, car la puissance de Dieu ne peut être limitée, et ne doit pas être étouffée. Faites aux hommes tout ce que vous voudriez qu'ils vous fassent, car c'est là la loi et les prophètes. Ceci vient de ceux qui vous veulent tous du bien et désirent votre bien et votre prospérité éternelle, et qu'on appelle Quakers, qui recherchent la paix et le bien de tout le peuple, bien qu'ils nous affligent et nous fassent souffrir. George Fox, comme j'avais cherché à adoucir les magistrats et à émousser l'âpreté de leurs ailes dans l'exécution de cette loi, il m'incombait d'écrire quelques lignes aux amis, afin de les fortifier et de les encourager à demeurer fermes dans leur témoignage et à supporter avec patience chrétienne et contentement les souffrances qui allaient venir sur eux. Je le fis dans l'épître suivante, « Tous mes chers amis, demeurez dans la foi de Dieu au-dessus de toutes les choses extérieures et dans sa puissance, qui vous a donné domination sur tout. La même puissance de Dieu est encore avec vous pour vous délivrer comme autrefois, car Dieu et sa puissance sont les mêmes, sa semence est sur toute chose et avant toute, et elle le sera quand ce qui fait souffrir aura disparu. Ayez une bonne foi en ce qui ne change pas, car quoi que quiconque fasse contre la vérité, cela lui reviendra et lui tombera sur la tête comme une meule. Si le Seigneur vous laisse être éprouvé, que tout soit abandonné, regardez au Seigneur et à sa puissance, qui est au-dessus du monde entier et demeurera quand le monde aura disparu. Réjouissez-vous dans la puissance et la vérité du Seigneur, amis, au-dessus de ce qui fait souffrir, dans la semence qui était avant que cela fût, car la vie, la vérité et la puissance de Dieu sont au-dessus de tout. Demeurez tous en cela, et si vous souffrez en cela, c'est pour le Seigneur. Amis, le Seigneur vous a béni en choses extérieures, et maintenant il peut vous éprouver pour savoir si vos esprits sont dans les choses extérieures ou avec le Seigneur qui vous les a données. Demeurez donc dans la semence par laquelle toutes les choses extérieures ont été faites et qui est au-dessus d'elles toutes. Quoi? Ne prierai-je pas et ne parlerai-je pas à Dieu, le visage tourné vers la Jérusalem céleste, selon mon temps accoutumé, que la Dalila de personne ne lui rase la tête pour éviter ainsi de perdre sa force, et qu'il ne se repose pas sur ses genoux, de peur que les Philistins ne soient sur vous. Car votre repos est en Christ Jésus, ne reposez donc en rien d'autre. George Fox, Londres, le 12 du 2 mois 1670. Le premier jour suivant l'entrée en vigueur de la loi, je me rendis à la maison de réunion de Gracechurch Street, où je m'attendais à ce que la tempête fût le plus susceptible de commencer. En y arrivant, je trouvai la rue pleine de monde, et une garde placée pour empêcher les amis d'entrer dans leur maison de réunion. Je passai par l'autre passage, depuis Lombard Street, où je trouvai aussi une garde, mais la cour était pleine de gens, et un ami parlait parmi eux, toutefois il ne parla pas longtemps. Lorsqu'il eut fini, je me levai et fus poussé à dire « Sol, Sol, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi offres-tu une résistance vaine et périlleuse en regimbant à ta conscience contre les aiguillons ?» Puis je montrai que c'est la nature de Saul qui persécute encore, et que ceux qui persécutent Christ dans ses membres aujourd'hui, là où il est manifesté, regimbent contre ceux qui les piquent. Que c'était la naissance de la chair qui persécutait la naissance née de l'esprit, et que c'était la nature des chiens de déchirer et de dévorer les brebis, mais que nous souffrions comme des brebis qui ne mordent pas en retour, car nous étions un peuple pacifique, et nous aimions ceux qui nous persécutaient. Après que j'eus parlé quelque temps en ce sens, le constable vint avec un indicateur et des soldats, et comme il me tirait vers le bas, je dis « Heureux les artisans de paix ». Le commandant des soldats me mit parmi les soldats et leur dit de me lier, me disant « Vous êtes l'homme que je cherchais ». Lorsqu'il me conduisit dans les rues, Thomas Lowe et Gerald Robert me suivirent, et le peuple leur cria « Prenez garde à lui, c'est un homme princier ». Ils prirent aussi John Bunyit avec un autre ami et nous emmenèrent d'abord à la bourse, puis vers Mofield. En traversant les rues, le peuple fut très modéré. Certains se moquèrent du constable et lui dirent que nous ne nous enfuirions pas. L'indicateur allait avec nous sans être reconnu, jusqu'à ce qu'il entrât en discussion avec l'un de la compagnie et dise « Ce ne sera jamais un bon monde tant que tous les gens ne reviendront pas à la bonne vieille religion d'il y a 200 ans. » Sur quoi je lui demandai « Êtes-vous papiste ?» Quoi, un indicateur papiste? Car il y a 200 ans, il n'y avait pas d'autre religion que celle des papistes. Il vit qu'il s'était pris lui-même au piège et en fut bouleversé, car tout le long des rues, je lui parlais souvent et manifestais ce qu'il était. Quand nous arrivâmes à la maison du maire et que nous fûmes dans la cour, plusieurs me demandèrent « Comment et pourquoi avez-vous été arrêté ?» Je les priai de demander à l'indicateur pourquoi, et aussi quel était son nom, mais il refusa de dire son nom et se mit à ronger le bout de ses doigts. Alors l'un des officiers du maire, regardant par une fenêtre, lui dit qu'il devait dire son nom avant de partir, car le Lord Maire voudrait savoir par quelle autorité il s'était mêlé avec des soldats à l'exécution de lois qui relevaient du magistrat civil et non du militaire. Après cela, il fut pressé de s'en aller, et il alla vers le portier pour qu'on le laisse sortir. L'un des officiers l'appela en disant « Avez-vous amené des gens ici pour informer contre eux, et maintenant vous en irez-vous avant que mon Lord Maire n'arrive ?» Certains crièrent au portier de ne pas le laisser sortir, alors il tira de force la porte et se glissa dehors. À peine fut-il dans la rue que le peuple poussa un cri qui fit retentir la rue, en s'écriant « Un indicateur papiste, un indicateur papiste !» Nous demandâmes aux constables et aux soldats d'aller le délivrer des mains du peuple, afin qu'on ne lui fît pas de mal. Ils y allèrent et le ramenèrent dans l'entrée du maire, où nous restâmes un moment, mais lorsqu'il ressortit, le peuple l'accueillit d'un autre cri semblable. Les soldats furent donc obligés de le secourir une seconde fois, puis ils le conduisirent dans une maison d'une ruelle, où ils le persuadèrent de changer de perruque, afin qu'il puisse s'échapper sans être reconnu. Quand le maire arriva, on nous introduisit dans la pièce où il se trouvait, et certains de ses officiers auraient voulu nous enlever nos chapeaux, ce qu'ayant remarqué, il leur dit de nous laisser et de ne pas toucher à nos chapeaux, car, dit-il, ils ne sont pas encore amenés devant moi en justice. Nous restâmes donc là, tandis qu'il interrogeait quelques enseignants presbytériens et baptistes avec lesquels il fut assez sévère, et il les confondit. Quand il en eut fini avec eux, on me fit avancer à la table où il était assis, et alors les officiers m'enlevèrent mon chapeau. Le maire me dit doucement, « Monsieur Fox, vous êtes un homme éminent parmi ceux de votre profession, je vous prie, voudrez-vous être un instrument pour les dissuader de se réunir en si grand nombre ? Car puisque Christ a promis que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il sera au milieu d'eux, et que le roi et le parlement ont la bonté de permettre jusqu'à quatre personnes à se réunir pour adorer Dieu, pourquoi ne voudriez-vous pas vous contenter de participer à la fois à la promesse de Christ pour deux ou trois, et à l'indulgence du roi pour quatre ? Je répondis, en ce sens, la promesse de Christ n'était pas destinée à décourager le grand nombre de se réunir en son nom, mais à encourager le petit nombre, afin que le moindre nombre ne répugne pas à se réunir à cause de sa petitesse. Mais si Christ a promis de manifester sa présence au milieu d'une assemblée si petite, où seulement deux ou trois étaient réunis en son nom, combien plus sa présence abonderait-elle là où deux ou trois cents sont réunis en son nom ? Je le priai de considérer si cette loi n'aurait pas saisi Christ, avec ses 12 apôtres et ses 70 disciples, si elle avait été de leur temps, qui avait coutume de se réunir souvent ensemble, et en grand nombre. Quoi qu'il en soit, je lui dis que cette loi ne nous concernait pas, car elle avait été faite contre les réunions séditieuses, de ceux qui se réunissaient sous couleur et prétexte de religion, pour tramer des insurrections, comme dit la loi, l'expérience récente l'avait montré, mais nous avions été suffisamment éprouvés et mis à l'épreuve et toujours trouvés pacifiques. Il ferait donc bien de faire la différence entre l'innocent et le coupable. Et il dit, la loi a été faite contre les réunions et un culte non conforme à la liturgie. Je lui dis que, conforme à, n'était pas exactement la même chose, et je lui demandai si la liturgie était conforme aux Écritures, et si nous ne pouvions pas lire les Écritures et parler selon les Écritures. Il dit, oui. Je lui dis, cette loi ne saisit que ceux qui se réunissent pour comploter et tramer des insurrections, comme l'expérience récente l'a montré, mais vous n'avez jamais fait cette expérience avec nous. Parce que des voleurs se trouvent parfois sur la route, les honnêtes gens ne doivent-ils pas voyager ? Et parce que des comploteurs et des intrigants se sont réunis pour faire du mal, cela empêche-t-il un peuple honnête et pacifique de se réunir pour faire le bien ? Si nous avions été un peuple qui se réunit pour comploter et tramer des insurrections, etc. Nous aurions pu nous arranger en groupe de quatre, Car quatre pourraient faire plus de mal en complotant que s'il y en avait 400, parce que quatre peuvent exprimer leurs pensées l'un à l'autre plus librement que ne le peuvent 400. Par conséquent, nous étant innocents et n'étant pas le peuple que cette loi vise, nous tenons nos réunions comme nous avions coutume de le faire, et j'ajoutai que je croyais qu'il savait dans sa conscience que nous étions innocents. Après encore quelques discussions, il prit nos noms et les lieux où nous logions, et enfin, comme l'indicateur était parti, il nous remit en liberté. Étant libres, les amis avec moi demandèrent « Où irez-vous ? » Je leur dis « À la réunion de Gracéchure Street de nouveau si ce n'est pas terminé. » Quand nous y arrivâmes, le peuple s'était en général dispersé, seuls quelques-uns se tenaient près de la porte. Nous allâmes chez Gérard Robert. De là, j'envoyai demander comment s'étaient passées les autres réunions dans la ville. J'appris que, dans certains lieux de réunion, on avait tenu les amis dehors, dans d'autres, on les avait arrêtés, mais remis en liberté quelques jours plus tard. Ce fut un temps glorieux, car la puissance du Seigneur vint sur tous, et sa vérité éternelle grandit en réputation. Car aussi vite que certains de ceux qui parlaient étaient arrêtés, d'autres étaient poussés par le Seigneur à se lever et à parler. Cela fut admiré du public, et cela fut regardé d'un œil encore plus favorable parce que beaucoup de baptistes et d'autres sectes quittèrent leur réunion publique et vinrent voir le courage des Quakers. Quant à l'indicateur mentionné plus haut, il fut si effrayé que cela empêcha tout autre indicateur de paraître publiquement à Londres pendant quelque temps. Mais le maire, dont le nom était Samuel Stalling, bien qu'il se conduisît avec douceur envers nous, se révéla ensuite un très grand persécuteur de nos amis, dont beaucoup furent jetés en prison par lui, comme on peut le voir dans les procès de William Penn, William Mead et d'autres à L. Old Bailey, un tribunal de Londres cette année-là. Le maire et son nom devinrent une puanteur répulsive et le seigneur le retrancha. Après quelque temps, le degré de persécution dans la ville commença à diminuer et nos réunions y furent plus tranquilles. Ne sentant rien de plus de la part du Seigneur à faire à Londres, j'allai visiter les amis à la campagne et j'assistai à plusieurs réunions dans le Middlesex, le Buckinghamshire et l'Oxfordshire, qui furent paisibles, bien que dans certains endroits, il y eut beaucoup de menaces. À Reading, la plupart des amis étaient en prison et j'allai les visiter. Après être resté un moment avec eux, les amis prisonniers se rassemblèrent et plusieurs autres personnes se joignirent à nous. J'eus ainsi une belle occasion parmi eux, et je déclarai la parole de vie, les encourageant dans la vérité, et ils furent rafraîchis en sentant la présence et la puissance du Seigneur parmi eux. Comme le geôlier savait que j'étais à la prison et que la réunion était terminée, les amis se demandaient comment me faire sortir de nouveau en sûreté, car ils craignaient qu'il ne m'arrêtât. Après être resté un peu et avoir mangé avec eux, je descendis, le geôlier était à la porte. Je mis ma main dans ma poche, ce qu'il regardait, puisqu'il espérait manifestement obtenir quelque chose de moi, il ne me posa aucune question. Je lui donnai donc quelque chose, et lui demandai d'être bon et civil envers mes amis en prison que j'étais venu visiter, et il me laissa sortir sans interruption. Mais peu après, quand Isaac Pennington vint les visiter, il l'arrêta et le fit mettre en prison. Le lendemain matin, je me rendis à cheval à une réunion à Bathurst, dans le Hampshire, Thomas Briggs étant avec moi. Lorsque nous arrivâmes dans la paroisse, des gens sérieux nous dirent que le prêtre de la ville était un homme envieux et qu'il nous menaçait. Nous allâmes à la réunion, qui était grande, et après quelque temps Thomas Briggs se leva et parla. Il semble que le prêtre avait obtenu un mandat et envoyé les constables et d'autres officiers à la réunion. Ils entrèrent dans la maison, restèrent un moment, puis s'en allèrent, mais ils n'entrèrent pas dans la réunion. Nous, dans la réunion, ne savions pas qu'ils étaient présents. Lorsque Thomas Briggs eut fini de parler, je fus poussé par le Seigneur à me lever et à déclarer la parole de vie au peuple, et nous eûmes une réunion précieuse. Quand la réunion fut terminée et levée, j'entendis un grand tumulte dans la cour, et en sortant, l'homme de la maison nous dit « Les officiers étaient déjà venus dans la maison auparavant, et ils ne sont pas entrés dans la réunion, mais sont repartis sans rien faire. Le prêtre s'est mis en rage et les a renvoyés de nouveau avec son propre domestique. » Comme la réunion était finie avant leur arrivée, ils étaient impuissants à arrêter qui que ce soit. Ainsi la bonne providence du Seigneur nous préserva du dessein mauvais du prêtre envieux. De là nous allâmes chez un ami au bord du Berkshire, où plusieurs amis vinrent nous visiter. Ensuite nous passâmes dans le Surrey et eûmes de nombreuses réunions précieuses, jusqu'à ce que nous arrivions près de Guildford, chez Stephen Smith, où de grandes persécutions avaient eu lieu, et beaucoup de biens personnels avaient été enlevés aux amis de cette région parce qu'ils continuaient à tenir leurs réunions, et ils restaient soumis à de grandes menaces. Pourtant nous eûmes plusieurs réunions bénies dans la région, et la puissance du Seigneur était au-dessus de tout, en est par laquelle nous fûmes préservés. Nous allâmes dans le Sussex, en passant par la maison de Richard Bax, où nous eûmes une réunion grande, précieuse et paisible, bien que les constables eussent auparavant proféré des menaces. J'eus encore bien d'autres réunions dans ce comté, et bien qu'il y eût quelques menaces, les réunions furent paisibles, et les amis furent rafraîchis et affermis sur le fondement de Dieu qui demeure ferme. Après avoir pleinement visité le Sussex, j'allai dans le Kent, et j'eus de nombreuses réunions glorieuses et précieuses en plusieurs endroits de ce comté. J'allai à une réunion près de Deal, qui était très grande, et revenant de là à Canterbury, je visitai les amis qui s'y trouvaient, puis je passai dans l'île de Sheppey, où je restai 2 ou 3 jours. Alexandre Pock, George Whitehead et John Roos asterisque vinrent m'y voir. Asterisque John Roos épousa la fille de Margaret Fell, également nommée Margaret. George Fox se réfère plus tard à John Roos comme à son fils, après avoir épousé Margaret Fell, veuve depuis 11 ans. Avant d'épouser la fille de Margaret Fell, John Roos avait eu l'oreille coupée à Boston par les puritains de Boston. Cliquez pour lire le récit de sa souffrance. Ayant trouvé mon service pour le Seigneur achevé là, le lendemain nous partîmes et voyageâmes en direction de Rochester. Et en chemin, tandis que je descendais une colline à pied, un grand poids et une oppression tombèrent sur mon esprit. Je remontai à cheval, mais le poids demeura si lourd sur moi que je pouvais à peine monter. Enfin nous arrivâmes à Rochester, mais j'étais très épuisé, étant si extrêmement chargé et accablé par les esprits du monde que ma vie était opprimée sous leur poids. Avec difficulté je parvins à Gravesend et me reposai dans une auberge, mais je pouvais à peine ni manger ni dormir. Le lendemain, John Roos et Alexandre Pock allèrent à Londres, et John Stubb vint auprès de moi. Lui et moi prîmes le bac pour passer dans l'Essex. Nous arrivâmes à Hornchurch, où il y avait une réunion le premier jour. Après la réunion, je chevauchai avec une grande inquiétude jusqu'à Stratford et chez un ami nommé Williams, autrefois capitaine. J'étais si faible que je me couchai là et enfin, je perdis à la fois l'ouïe et la vue. Plusieurs amis vinrent de Londres auprès de moi. Je leur dis, je suis comme un signe pour ceux qui ne veulent pas voir, et pour ceux qui ne veulent pas entendre la vérité. Dans cet état je demeurai assez longtemps. Plusieurs personnes se rassemblèrent autour de moi, et bien que je ne puisse les voir, je sentais et discernais leurs esprits, qui parmi eux étaient d'un cœur sincère, et qui ne l'étaient pas. Plusieurs amis, qui étaient médecins, auraient voulu me donner des remèdes, mais j'étais contre le fait d'en prendre, car je sentais que j'avais une grande souffrance à traverser, et je dis donc aux amis de ne laisser autour de moi que des amis solides et de poids. Sous de grandes souffrances, gémissements, labeurs, chagrins et oppressions, je restai couché plusieurs semaines, ce qui me réduisit si bas et si faible dans mon corps que peu pensaient que je pourrais vivre. Certains de ceux qui étaient avec moi s'en allèrent, disant qu'ils ne voulaient pas me voir mourir, et l'on rapporta, tant à Londres qu'à la campagne, que j'étais décédé, mais je sentais intérieurement la puissance du Seigneur qui me soutenait. Lorsque ceux qui m'entouraient m'eurent abandonné à la mort, je leur parlai pour qu'ils fassent venir une voiture afin de me conduire chez Gérard Robert, à environ 12 000, car je savais que je devais aller là. J'avais alors recouvré un léger scintillement de vue, de sorte que je pouvais distinguer les personnes et les champs en chemin, mais c'était tout. Quand j'arrivai chez Gérard, il était très faible. Je fus poussé à lui parler et à l'encourager. Après être resté environ 3 semaines là, je sentis qu'il m'était demandé d'aller à Enfield. Les amis avaient peur que je bouge de nouveau, mais je leur dis que c'était sûr pour moi d'y aller. Lorsque j'eus quitté Gérard et que je fus arrivé à Enfield, j'allai d'abord visiter Amor Stoddard, qui était très faible et presque sans voix. Je fus poussé à lui dire, « Tu as été fidèle comme homme et fidèle à Dieu, et la semence immortelle de vie est ta couronne. » Bien d'autres paroles me furent données à lui dire, bien que j'étais alors si faible que je pouvais à peine me tenir debout, et en quelques jours Amor mourut. J'allai chez la veuve Dry à Enfield, où je restai tout cet hiver-là, combattant en esprit contre les esprits mauvais du monde, qui faisaient la guerre contre la vérité et les amis. Car il y avait de grandes persécutions en ce temps-là. Certaines maisons de réunion furent abattues, et beaucoup furent mises à sac par des soldats. Parfois une troupe de cavalerie ou une compagnie d'infanterie venait, et certains brisaient leurs épées, carabines, mousquets et piques en frappant les amis. Ils en blessèrent tant que leur sang coulait dans les rues. Parmi d'autres qui furent actifs dans cette cruelle persécution à Londres, il y avait mon ancien adversaire, le colonel Kirby, qui, avec une compagnie de soldats à pied, dispersa plusieurs réunions, souvent en demandant si j'étais présent aux réunions qu'il dispersait. Une fois, tandis qu'il traversait l'eau vers Rosslydown, une altercation survint entre certains de ses soldats et certains bateliers, et il dit à ses hommes « Tirez sur eux » ce qu'ils firent, et ils en tuèrent quelques-uns. J'étais sous de grandes souffrances à ce moment-là, au-delà de ce que j'ai des mots pour déclarer. Car j'étais descendu dans l'abîme, et je vis toutes les religions du monde, et les gens qui vivaient en elles, et les prêtres qui les soutenaient, et ils étaient comme une compagnie de mangeurs d'hommes, dévorant le peuple comme du pain, et rongeant la chair jusqu'aux os. Mais quant à la vraie religion et au vrai culte, et aux ministres de Dieu, hélas! je vis qu'il n'y en avait aucun parmi ceux du monde qui en faisaient profession. Car ceux qui prétendaient être l'Église n'étaient qu'une compagnie de mangeurs d'hommes, des hommes d'apparence cruelle et aux longues dents, eux qui, bien qu'ils eussent crié contre les mangeurs d'hommes, les Indiens en Amérique, je vis qu'ils étaient de la même nature. Et comme les grands juifs de profession dévoraient le peuple de Dieu comme du pain, et comme les faux prophètes et les prêtres qui alors prêchaient la paix au peuple tant qu'ils mettaient dans leur bouche et les nourrissaient, mais si on ne les nourrissait pas, ils préparaient la guerre contre eux, ils arrachaient leur chair de leurs os, et les hachaient pour la marmite. Ainsi ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui, prêtres comme professants ne sont pas dans la même puissance et le même esprit que Christ, les saints prophètes et les apôtres. Au contraire, ils sont dans la même nature que les anciens juifs de profession, et sont eux aussi des mangeurs d'hommes comme eux. Ainsi, dans ma profonde misère, je vis des choses au-delà de ce qu'on peut dire, et je vis un cercueil noir, mais je le franchis. Back next.